Ce n'est qu'un début. Le pavillon Philips, Expo 1958, Bruxelles. Le Corbusier architecte, Yanis Xenakis, collaborateur, Edgar Varèse, compositeur. Ou bien est-ce l'inverse? Les formes gauches comme élément nouveau de l'architecture moderne. Les formes gauches comme complément du plan et de la droite. Les formes gauches comme l'expression même de la résistance à la gravité. La continuité des formes comme l'opposition à la structure primaire des constructions. La continuité des formes comme la disparition des cinq points de l'architecture. La continuité des formes comme un retour aux coquillages ramassés sur la plage. Les mathématiques comme fondement. La plastique comme fondement. L'industrie comme fondement. La forme au service de la surface d'évolution du public. La forme au service de l'auditorium électroacoustique. La forme au service de la lumière en couleur et des projections. Le poème électronique comme synthèse entre les arts et la technique. Le poème électronique comme une réalité d'aujourd'hui tournée vers demain. Le poème électronique comme début.
En parlant du début, avant de rentrer dans le pavillon, tous les spectateurs étaient obligés de rentrer pendant que les autres qui avaient assisté avant sortaient de notre sortie. Et pendant ce temps-là, il y avait un interlude qui était écrite, composée par Xenakis. Et je vous laisserai entendre ça, ça dure 2 minutes et demie à peu près. Et je vous demanderai après de me dire de quoi ces sons sont faits. Quelqu'un sait de quoi c'était fait, ces sons? Du charbon. du charbon qui brûle. D'où le titre concret, parce que la musique concrète à l'époque, avec le studio GRM, était spécialiste de ce genre de technique où en fait on cherchait des sons dans la nature ou des sons des objets et puis on les traitait dans le studio après. Concret aussi parce que le pavillon Philips est fait de béton, donc concrete en anglais, et PH, certainement pour une allusion vers les formes paraboloïdes, hyperboliques qui l'ont formé. Ce que vous voyez là, c'est en fait une partition de stéréophonie, parce que c'était sur deux bandes, deux pistes. Et pour lesquelles il avait composé chaque piste sur une bande mono, mais qui était basculée dans les 425 haut-parleurs qui habillaient l'intérieur du pavillon.
Deux. Ce n'est qu'un début. Parabole, hyperbole, PH. Un phénomène d'acoustique visuelle. Dans sa tête, l'idée naît-elle, divague et se cherche. Un prisme, une statue, un volume, le plan. Donnez-moi du fusain, du papier, une coque de crabe ramassée à Long Island en 1946 en tête. Inventaire. Film, effet de lumière, couleur, automatisation. Vous serez libre de faire la façade que vous voudrez. Je ne ferai pas de façade. Je vous ferai un poème électronique. Tout se passera à l'intérieur. Inventaire. Son lumière, couleur, rythme. Peut-être un échafaudage sera-t-il le seul aspect extérieur. Inventaire. Un poème de 10 minutes. Un public de 500 personnes toutes les 10 minutes. Un estomac, une sorte d'estomac. Une bouteille suspendue à une cage d'échafaudage tubulaire, mais Xenakis abandonna vite le plâtre. Inventaire. Surface gauche autoportante. Paroi concave, presque verticale. Debout, au-dessus des autres, voir. Inventaire. Bâtiment creux sans support intérieur. 40 mètres de long. 22 mètres de haut. Des parois de 5 cm d'épaisseur. D'un doigt appuyé sur un bouton électrique au pavillon Philips à l'exposition universelle de Bruxelles en avril 1958.
Elle a été écrite pour l'exposition internationale de Bruxelles.
Oui.
Et nous, si nous parlions de ça.
Oh, si vous voulez.
Un peu beaucoup.
Bon.
Comment est-ce que l'idée. Le projet est né.
J'ai reçu une lettre de Corbusier, l'architecte, qui me disait quelque chose à vous proposer, je crois que ça vous intéressera. Alors ils me disent que c'était de faire quelque chose pour les Philips, pour l'exposition. Alors, il fallait qu'on se rencontre pour décider la chose. Alors, lui était à Chandigarh à ce moment-là, Chandigarh, aux Indes, où il dessine, là, il fait l'urbanisme d'une ville. Alors il a pris l'avion. Moi, j'ai pris l'avion ici, nous nous sommes trouvés à Paris, les Philips sont venus nous voir à Paris, alors on a décidé de faire ça, ils avaient demandé qu'ils voulaient un pavillon. Alors il a dit non, je ne veux pas faire un pavillon, ce que je vais vous faire, ça va être, oui, naturellement un pavillon, si vous le voulez, mais ça va être surtout le Philips représente dans le son et la lumière, une des organisations les plus importantes du monde, alors on va faire un poème électronique. Alors il m'a dit, alors on a décidé, alors ça durerait 480 secondes, c'est-à-dire 8 minutes, et dans le pavillon, il projetait, il y avait ce qu'il appelait des ambiances de couleurs, c'est-à-dire la lumière changeait de couleur, et sur les murs, autour des murs, il projetait des images, c'est-à-dire en stéréoscope, non animé, pas en cinéma du tout. Et alors on commençait, on finissait ensemble, on avait commencé, on n'avait rien à voir l'un et l'autre. Le son allait de son côté, lui allait de son côté. Moi j'avais à ma disposition des routes, 15 routes sur lesquelles je distribuais le son, sur la comme j'avais composé, et qui étaient distribuées à l'aide de relais sur une chaîne de 425 haut-parleurs. Mais pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est que vous appelez une route? C'est-à-dire une route, une route, ça veut dire des dessins, par exemple, une suite de dispositions.
Oui, comme une route, par exemple.
Nous parlons enchaîner les haut-parleurs qui étaient construits dans le mur, dans le ciment du bâtiment.
Et le pavillon lui-même, l'édifice lui-même, comment est-ce qu'il était conçu?
Alors,
c'était un pavillon, un édifice standard, une boîte?
Oh, pas du tout, c'était comme base, comme plan de base, c'était un estomac de vache coupé en deux, la coupe. Et qui avant, il y a trois estomacs. Alors, sur chacun des estomacs, il y avait une espèce de pyramide circulaire, c'est-à-dire comme une tour qui montait en cône. Et puis alors, il y avait le détour tout autour, il y avait des hauteurs différentes. Alors, le son traversait par là, ça montait dans un pic, ça passait dans l'autre, ça passait partout. Tout d'un coup, vous voyez un son calé quelque part. Et vous le suiviez autrement, il n'y avait pas de discontinuité dans le son, il y avait simplement qu'il passait dans certains endroits, vous croyez qu'il allait se fixer là, il était déjà reparti dans un autre endroit.
Et comment est-ce que les gens circulaient
On ne circulait pas, tout le monde restait debout.
Mais on entrait par une porte et on sortait
par une autre. On rentrait par une porte et on sortait par une autre quand la chose était finie.
Alors, il y avait donc un cheminement du public à travers le...
Une fois que le milieu, c'est-à-dire le pavillon était plein, ça se fermait. Et puis alors on sortait de l'autre côté. On rentrait d'un côté, on remplissait, on fermait les portes, les images se projetaient, le son se projetait et voyageait. Et alors quand c'était fini, on sortait par l'autre porte, c'était au côté opposé.
Et quelle a été la réaction des visiteurs devant cette œuvre de musique spatiale?
On a eu plus de 2 millions et demi qui sont venus nous visiter. On avait une moyenne de 15 à 16 000 par jour. Et ça durait à peu près 6 mois.
Mais la réaction des gens,
La réaction immédiate. Au début, il y avait des gens qui avaient des petits sourires un peu gênés au début. Puis ensuite plus du tout, il n'y a jamais eu un applaudissement, les gens sortaient tout à fait comme envoûtés de la chose et énormément venaient.
3. Quelle est la forme géométrique que doit avoir la couverture pour que la quantité de matière qui constitue cette couverture soit minima? Continuité. Coquille aussi étendue, aussi fine, aussi plane, aussi courbe qu'on peut le désirer. Tôle emboutie. Avion, voiture, industrie, mathématiques plastiques, industrie, matériaux. Résistance issue de la géométrie des formes, l'architecture comme l'industrie. Octobre 56 commence l'étude du projet. Occasion unique d'imaginer un édifice autoportant constitué uniquement dans sa structure et sa forme de paraboloïdes, hyperboliques et de conoïdes. L'arbitraire de l'intuition prend la parole. Calcul, outil, ensuite. A et B, puis C. Inventaire. 21 mètres et 13, puis 18. On cherche. Solution autoportante ou semi-autoportante. C'est au tour des ingénieurs de jouer. 4. Dans Le Corbusier, œuvre complète, volume 6, 1952-57, le pavillon Philips est présenté aux pages 200 et 201. Inventaire. Un court texte trois fois. Français, anglais, allemand. Trois photographies. La vue générale du pavillon côté entrée. Le pavillon avec la sculpture polychrome côté sortie. Une photographie de maquette, la maquette. Un fac-similé de lettres. Lettre personnelle de Richard Neutra, architecte américain, à Le Corbusier, après sa visite au pavillon. Inventaire. Paroi constituée de dalles gauches, coulées sur sable, au sol, d'une dimension approximative de 1,50 m de côté, faisant 5 cm d'épaisseur, et montée au moyen d'un échafaudage volant intérieur et soutenu par un double réseau de câbles de 8 mm d'épaisseur, tendu sur les directrices cylindriques du béton fortement armé. Inventaire. Échafaudage volant. Câble. Dalle. Directrice cylindrique. Ancré sur les arêtes ou la ceinture des fondations. Photographie de Lucien Hervé. Exenakis d'ajouter, de reprendre, de préciser dans le poème électronique publié en 1958 dans la collection Force Vive, chez Minuit. Sensibilité façonnée aussi et désormais par un espace courbe. Parler d'architecture, dire ou exprimer. La somme des expériences en un même lieu forme l'architecture, dit Tadao Ando, architecte japonais. Le Corbusier se tait. Le Corbusier se tait à ce sujet qui seulement énumère, inventorie, décrit. Le Corbusier, dans Le Corbusier, œuvre complète, volume 6, 1952-57, en pages 200 et 201, tait même le contenu du poème projeté sur les parois, presque verticales, du pavillon, ne voulant mêler architecture et art. L'œuvre complète en 8 volumes ne rapporte que les éléments architecturaux de l'œuvre de Le Corbusier, et à peine les livres, et à peine les meubles, à peine la peinture.
Dans l'extrait de l'entretien avec Varèse tout à l'heure, il parlait des routes de son. Et là, vous voyez un carnet de Xenakis décrivant ces routes de son. En fait, il y avait une dizaine de routes de son possibles de ces 400 quelques haut-parleurs qui pouvaient suivre. Donc il y a une technologie qui était assez rudimentaire à l'époque, mais il y avait des switches qui passaient le son d'un haut-parleur à un autre, selon des trajets préétablis. Et quand vous écoutez, et nous allons écouter un très court extrait du poème électronique, parce que la pièce composée par Varèse portait le même nom que le spectacle de Le Corbusier, le poème électronique. En fait, il anticipait quelque part Varèse dans l'écriture, dans sa façon d'écrire et de manipuler les sons, déjà les trajets mêmes. Or, si vous vous rappelez du charbon brûlant de Xenakis, c'était plutôt statique. Donc, ce qu'il cherchait était un effet vestibulaire, qui donnait presque le vertige par rapport au mouvement du son tellement rapide. Or, Varèse, au contraire, composait... Et je vous demande d'écouter dans ce sens-là, comment déjà, là c'est simplement en stéréo, comment déjà les sons voyagent dans l'espace, un espace imaginaire. Thank you. Par des effets simplement de volume, une présence plus ou moins réelle, ou des effets de réverbération, c'est comme si, par exemple, une voix disparaissait. Je vous donne juste l'exemple le plus frappant. Donc Varèse a réussi dans cette œuvre, qui jouit d'une carrière évidemment indépendante du pavillon, mais où le pavillon est toujours présent, à contrario de l'œuvre de Xenakis, qui est vraiment une œuvre de musique concrète et qui demande pas forcément une spatialisation comme il aurait voulu dans le pavillon, mais ça existe en soi, sans référence du tout au pavillon. Mais pour moi, le Varèse implique le pavillon.
5. Ce n'est qu'un début. C'est ancien, ça vient de loin. Du voyage d'Orient, de ceux d'Allemagne et d'Espagne. C'est dans les carnets facsimilés, couverture de carton, de cuir noir, spirale de fer, reliure usée, couvert de notes de croquis, de relevés, que quelques couleurs à l'aquarelle révèlent. C'est un début, c'est ancien. Ça vient de loin. Quelle forme adopter ? Le cirque de toile si parfait implique la reine. Nous avions besoin d'événements architecturaux successifs, variés, contrastés. Un cube de toile, alors. Mais interviendront les matériaux et les éléments. Inventaire. L'acier et la toile, le vent et la pluie. C'est en 1937, à l'Expo internationale Art et Technique, un programme. Le pavillon des temps nouveaux. En 1958, à Bruxelles, les jeux électroniques. Synthèse illimitée de la couleur, de l'image, de la musique, de la parole et du rythme. En 1937, des canons, des munitions, merci, des logis, SVP. Le contenu du pavillon est un échantillonnage des possibilités de l'urbanisme des temps modernes. Des créations entières méticuleuses et précises, le contenant, de l'unité dans le détail, du tumulte dans l'ensemble. Pourquoi l'avoir fait si grand ? Pour émouvoir. Émouvoir par la toile aussi bien qu'avec la pierre. Ces espaces peuvent parler de proportions. Nécessaire d'émouvoir architecturalement par l'effet du contenant. Commotionner le spectateur par quelque chose d'émouvant tout d'abord. Le retenir, le prédisposer à étudier. Inventaire. Surface au sol, 1000 m2. Surface au plafond, toile, 1225 m2 montée en une seule pièce. Longueur des câbles, 4400 m. Section des câbles les plus gros, 50 mm. Métrage des panneaux de démonstration, 957 m2. Cube de béton pour dés de fondation pour ancrage des câbles et des poteaux, 250 m3. 1937, pavillon des temps nouveaux. 1958, pavillon de Bruxelles. On passe en revue la construction, les équipes, les ingénieurs, les entrepreneurs, les ouvriers, les techniques devenues technologies. On montre la carcasse de la conque sonore de la tribune. Couleur et pinceau. Polychromie égale joie. Bleu, blanc-rouge, bleu, rouge, blanc, noir, jaune de Naples, vert eau, vert, rouge. Modulation polychrome. On écrit, une nouvelle ère a commencé, une ère de solidarité. 1937. En 1958, on écrit le poème électronique. Genèse sur fond bleu, un taureau sur fond rouge, un toréador sur fond noir. En 1958, on écrit, d'argile et d'esprit sur fond bleu, des profondeurs à l'aube sur fond noir entre deux yeux de hibou. En 1958, on écrit, des dieux faits d'hommes. Collage. collage entre Picasso et Godard avec iconographie et mise en page de Jean Petit. Les mots sur les murs, cinéma de l'histoire. En 1937, on écrit « Le respect sacré de la liberté individuelle est la pierre angulaire de tout urbanisme moderne. » Le respect sacré de la liberté individuelle est la pierre angulaire de tout urbanisme moderne. En 1958, on écrit « Ainsi forgent les ans ». En 1958, 480 secondes utilisant les possibilités fournies par l'électronique, l'éclairage artificiel, l'acoustique et l'automatisation. Inventaire. Coque de béton tendue sur des câbles, faite pour accueillir 20 000 spectateurs par jour en 40 représentations. 6. Carnet LCK44. Train bleu, 19 juillet 56. Philippe. Septembre-octobre 56, page 10, plus 13, plus 20, 23. Chandigarh, 1, 8 novembre, 23 novembre 56. Note. Cosmique. Primaire. Géométrie. Machinisme. Solidarité fatidique. Solidarité aimante. Armature tubulaire. Tôle déployée aluminium sur carton. Couleur armature. Volume aspect aluminium. Cône. Hyperbole. Et ce sera du béton. Des dalles de béton sur des câbles tendus, posées comme pour la couverture de la Maison des Jeunes et de la Culture de Firminy, de l'autre côté du stade. 1960. Inventaire. Le bâtiment, 112 mètres de longueur, composé de 16 travées de 7 mètres coupées par 2 joints de dilatation. La toiture suspendue de portée théorique de 18,25 mètres présente en coupe une parabole dissymétrique ayant une flèche de 1,30 mètres. Les appuis sont dénivelés de 2,95 m environ. 1960. Inventaire. La couverture en dalles cellium repose sur 132 câbles représentant une longueur totale de 2500 mètres composés chacun de 19 fils de 38 dixièmes. Les câbles sont groupés par deux et espacés de 235 mm. L'anthraxe de ces groupes étant de 1,75 m. 1960. Inventaire. Au droit des pignons et des joints de dilatation, le premier câble est placé à 41 cm de l'axe du joint et à 34 cm du pignon, les dalles cellium étant en porte-à-faux sur ces câbles. Les dalles de couverture sont en béton cellulaire autoclavé de 10 cm d'épaisseur et reposent directement sur les câbles. 1958. Xenakis est là, près de Le Corbusier, de Tobito, de Bador. Le pan ondulatoire mis au point par Xenakis est là également, qui file sur les longues façades rythmant le paysage, scandant la nouvelle acropole de la ville verte et radieuse, Firminy. 1958-1961, Bruxelles, le pavillon Philips, Bagdad, le gymnase, le stade, Firminy, la maison de la culture, Xenakis y travaille. Les projets se mêlent, se succèdent, s'additionnent, s'augmentent. 1958, Bagdad, Bruxelles. Les croquis dans les carnets se ressemblent, se nourrissent les uns les autres. Un estomac en coupe, le contenant. La peau se tend, les câbles s'étirent, les toiles se déploient. Plastique pour le gymnase à tendre sur des câbles, écrit Le Corbusier dans une note datée du 9 juillet 58 et remise à Xenakis.
Emmanuel parlait de Bagdad. Là, vous voyez à votre gauche ce que Xenakis décrit dans le petit texte de ce même cahier des routes du son. Le 12 juillet 1958, midi et quart, Le Corbusier a copié à main levée mon plan du gymnase de Bagdad pour comparer avec Notre-Dame et le Parthénon. Le Corbusier disait que Xenakis voyait beaucoup trop grand. Et Xenakis disait, mais si vous le comparez à Notre-Dame et au Parthénon, mais nous sommes censés faire rentrer 50 000 personnes par jour, c'est encore trop petit. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais sur le dessin à gauche, c'est marqué suspendu, accroché au bureau de Le Corbusier, qui vivait avec ça après. Ce qui était également prévu à Bagdad, c'était, parce que ça suivait vraiment tout de suite après le pavillon Philips, c'était que chaque nuit, il y aura des jeux électroniques. Ce n'était pas un poème électronique, mais des jeux électroniques. Le projet s'est pas fait.
Le gymnase a été construit des années et des années après, sans les jeux.
Et sans
Corbu et ouais. Sans Xenakis. 7. Ouais. Ce n'est qu'un début. 1957. Ronchamp, la colline, la chapelle, les formes gauches. La charpente masquée par la coque de béton. La maquette en fil de fer et toile tendue, l'enveloppe habillant le squelette, posé sur des murs. On a posé la coquille sur des murs. Des murs bêtement épais, mais utilement. Des poteaux de béton armés y sont toutefois enfermés. Les poteaux comme la charpente, masqués par les murs. La coque reposera de temps à autre sur le sommet de ces poteaux, mais elle ne touchera pas au mur. Un ray de lumière horizontale de 10 cm d'épais provoquera l'étonnement. Octobre 1957, les carnets de la recherche patiente. Inventaire. 7 fermes plates de 17 cm d'épaisseur. 180 plus 180 égale 360 poutrelles. 27 x 5 et 4,30 m de long. Rectiligne. Standard. Réalise la toiture en coque de 6 cm. Le Corbusier dessine qui a l'intuition de la forme, l'intuition de l'espace, de l'émotion. Xenakis traduit, formalise par les mathématiques. Les croquis. Firmini et Bruxelles témoignent de la même démarche d'expérimentation spatiale et technique. L'espace à l'un, la technique à l'autre. Peut-être une hypothèse. 8. Ce n'est qu'un début, une idée en tête, une image qui se forme. L'estomac, la coque, l'enveloppe, la bouteille, un échafaudage. Un échafaudage dans lequel on installe ou place une enveloppe spatiale, comme un casier à bouteille. Marseille, unité d'habitation de grandeur conforme. Mais avant déjà, le Palais des Nations à Genève, 1927-28, est la grande salle des assemblées. Inventaire. L'immense salle est couverte d'un toit jardin avec restaurant. Deux demi-arcs contreventés par trois chevalets transversaux constituent la structure. Les 8 points bas sont à articulation. Les 2 points hauts roulent sur des galets. Inventaire. 1. Jardin suspendu dominant le lac. 2. Le demi-arc du pont de 70 mètres de portée. 3. La coquille suspendue du mur plafond, réflecteur des ondes sonores. La coquille suspendue du mur plafond, réflecteur des ondes sonores. 1927-28, Genève. 1929, le Mondaneum, à Genève encore. Sorte de tour de Babel au parcours continu et périphérique, ascendant, formant coque. Le spectateur pénètre par le haut et c'est la rampe spirale. Roule. Trois nefs se déroulent parallèlement, côte à côte, sans cloison pour les séparer. Comme à New York. 1959, New York. Frank Lloyd Wright, architecte. Musée Guggenheim. La rampe spirale définit l'espace central, la nef, espace unique, unique espace, espace inaccessible que l'on contourne, que l'on ceinture, embrasse du regard et des pas. La main tient la rampe, le corps glisse, l'espace roule. Le vide retient de tomber face au plein de la peinture sur les murs projetés. 1959. 1929, Mondaneum, comme au Duomo. Santa Maria del Fiore, 1296-1436, Dôme de Brunelleschi, Florence, inventaire, 45 mètres 50 de diamètre à sa base. Ce n'est qu'un début. 1938-39, Le Corbusier dessine un échafaudage constitué de 8 poteaux, plan carré, parallélépipède, rectangle, verticalement posé. Échafaudage avec à son sommet le soleil sphère, Le soleil, sphère pleine, et ses rayons, lances de feu, venant frapper la terre, le sol, la ville à ses pieds représentés, maquette à hauteur de main. Et sous le soleil, un nuage noué. Et dessous encore, un œil, une oreille, immense, presque semblable l'un à l'autre, réceptacle creux, prêt à recevoir pour demain donné. un pavillon abri soulevé jouxte l'échafaudage qu'une rampe dessert. Un échafaudage encore. Le dessin, très blanc sur fond noir, dans Le Corbusier, œuvre complète, volume 4, 1938-46, page 13. Sans explication, juste une légende. 1938-39, exposition Ideal Home à Londres, Daily Mail. Les deux pages suivantes sont consacrées à l'installation de l'exposition Ville Radieuse, dans l'énorme palais qui abrite habituellement le salon de l'automobile. L'échafaudage est un élément publicitaire, dit-il. Une immense composition faite de ferraille et de papier mâché évoquant le soleil, l'espace, la verdure, ainsi qu'un œil et une oreille, toutes choses appelées à intriguer le visiteur et à laisser en lui le souvenir des principes essentiels et décisifs capables de conduire le nouvel urbanisme et la nouvelle architecture. Ce n'est qu'un début. C'est un début. 1965, Milan, le pavillon de la RAI. Architecte Achille Castiglioni, graphiste Enzo Mari. Un échafaudage de fer, de ferraille et un toit. Et en dessous, une structure modulaire placée dans la longueur de l'échafaudage. Inventaire. 10 mètres de haut, 36 mètres de long, 11 mètres de large. Le pavillon l'enveloppe, l'estomac. Un couloir unique aux parois soulevées, suspendues, surface de représentation. Ni mur, ni toit. Une enveloppe étirée, tendue, des percées, des échappées de la lumière et de l'ombre. À 45 degrés par rapport au sol, tout est placé. De quoi surprendre, éveiller, interpeller, intriguer. De quoi oublier, et l'avant et l'après. 1965. 2007-2011, Peter Zumthor, architecte. Mémorial pour les victimes des procès pour sorcellerie de Steilneset, Vardo, Norvège. 2007-2011, espace suspendu en tissu. Inventaire. Toile de fibre de verre enduite de téflon, échafaudage toujours, tendue sur une armature de bois. Le corps de textile souple est suffisamment grand pour abriter les 91 fenêtres et textes. Cocon bougeant au vent côtier qui souffle sans arrêt. Musique. Peter Zumthor avec Louise Bourgeois. Ce n'est qu'un début. Ce n'était qu'un début. 9. Son. Grave, moyen, haut, rythme, des lenteurs étouffantes, des vitesses tuantes, effroyablement espacées, trépidant, horriblement, horriblement vite, couleurs, dans le rouge, le jaune, le bleu, le violet, ou mieux, 2, son et rythme, 1, lumière et couleur, faire une grille S, son, égale R, rythme, 3 volumes, Euclide, les Dolomites, les pyramides, surface. La mer, la marée, les nuages, les blés, la toundra, le désert. Trait, tracé, lent, tracé, foudroyant, crocodile, serpent, l'éclair. Lumière, couleur, nuit, jour, dilicule, crépuscule, crescendo, décrescendo, lent, rapide. Saccadé, vite, lent, égale noir et blanc. Bleu et blanc, noir, bleu, blanc, violet, rouge et blanc, noir, rouge, blanc, orange, jaune et blanc, bleu, rouge, jaune, bleu, violet, rouge, orange, jaune, vert, ciel, mer, prairie, oiseau, poisson, tempête. Vautour, requin, rhinocéros, avion, croiseur, tank, parachute, nageur, famille cueillant fleurs, cheval de l'apocalypse, Jésus sur les flots, couché dans le foin. Orange éclair, bataille navale, typhon, euphorie, attaque. Quelque chose qu'on ne peut pas refaire, quelque chose qu'on refait infiniment. Commencer, recommencer, faire et refaire, œuvrer. Chacun son idée en tête, parallèle qui jamais ne se croise, diagonale qui intercepte. Directrice de l'espace, directrice musicale, écoute. L'entente, l'étreinte, écoute, les crins des sons. Écoute, mieux qu'un estomac avec une carcasse autour. Écoute, un vestibule, un espace laissé entre la rue et la porte. Un temps. Écoute, un temps. Ce n'est qu'un début, un premier coup, un coup de dé qui jamais n'abolira le hasard.
Après 58, après le pavillon Philips, Xenakis avait une autre occasion, quelques années plus tard, en 1967, lors de l'exposition universelle à Montréal, cette fois-ci. Au départ, il avait reçu une commande pour écrire une musique pour illustrer des cristaux. Mais quand il avait vu la maquette, pas faite par Le Corbusier, mais par Jean Faugeron, un autre architecte français, pour le pavillon français, il a remarqué une grande vide intérieur, un peu comme Wright avait fait à New York avant. Et il avait demandé l'autorisation, bien sûr, de l'architecte, mais aussi du commandataire, d'aller plus loin que le poème électronique et de créer ce qu'il appelait un polytope. Polytope, c'est à la fois plusieurs lieux, plusieurs choses à la fois. Et donc, c'était accepté. Zenakis avait écrit en 1958 aussi, après le pavillon Philips, un texte qui s'appelle « Note vers un geste électronique » où il était relativement critique du poème électronique de Le Corbusier pour sa narration. Pour Zenakis, qui avait quand même une formation d'ingénieur, qui était un grand matheux, c'est l'abstraction qui primait pour lui. Donc, les images qui ont été données dans le pavillon Philips étaient décevantes pour lui. Donc, imaginez-vous dans ce lieu, ce pavillon en 1967, une fois par heure, toutes les lumières s'éteignent, comme cet écran noir. Vous dégustez peut-être du foie gras, vous reniflez un petit Bordeaux, et puis... En effet, pour Xenakis, le pavillon Philips, ça n'était qu'un début. Mais aussi, quelque part, le Polytope de Montréal, ça n'était qu'un début pour lui et cette exploration polytopique. Il en a signé 5 en tout, pendant la décennie, grosso modo, de 67 à 78. Alors... il y a la maquette, comme vous voyez, c'est comme un pavillon Philips à l'intérieur, l'intérieur et l'extérieur. Le deuxième qu'il avait fait, c'était à Persépolis, en Iran, pour le festival à Shiraz. Le troisième, c'était à Paris, pour le Polytope de Cluny. C'était sa réponse pour le premier festival d'automne. On lui avait demandé d'écrire un opéra. Et il a dit, c'est du temps révolu, je vous propose un polytope. Donc c'était à Paris en 72 et tellement réclamé par le public, c'était repris en 73 dans une deuxième version. Et puis en 78, pour l'inauguration du Centre Pompidou, il avait composé le diatope où il a fait et l'architecture et la musique et le spectacle lumineux, encore abstrait. Et puis finalement, en 78 également, c'était à Mycène, quand il a pu, enfin, au bout de plus de 30 ans d'exil politique, rentrer en Grèce, et il était célébré comme le héros de la résistance qu'il était. Alors, il y a une autre œuvre dont j'aimerais vous parler très brièvement, qui n'est pas considérée comme un polytope, qui n'a pas été par Xenakis considéré comme un polytope, car il n'a fait que la musique. Il n'avait rien à faire avec l'architecture, et ni avec le spectacle lumineux qui a eu lieu, qui était signé par un artiste japonais, mais qui était vraiment très probant pour Xenakis, parce que c'était la première fois de sa vie qu'il avait vu des lasers. Et quand il est rentré en 70 de Osaka, parce que ça avait lieu à l'exposition universelle encore à Osaka en 70, il a rempli une valise de pamphlets, de manuels et tout ça sur les lasers. Et c'est lui qui avait fait, avec le polytope de Cluny en 72 à Paris, le premier spectacle en Europe, en fait, avec les lasers. Alors, la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça, c'est pour revenir un peu à la musique. Il y avait, en comparaison avec le pavillon Philips, où il y avait à peu près 400 haut-parleurs, à Osaka, il y avait 800. Et 800 qui étaient autant autour que suspendus que sous le sol. Et pour ça, Xenakis était extrêmement, son imaginaire a complètement éclaté. Et vous voyez en bas à gauche, c'est marqué « Then any movement is possible ». Et il avait écrit donc « Tout est possible ». Donc pour lui, c'était le nirvana, c'était un moment euphorique et tout. Et justement, ses compères japonais ont dit « Non, Yanis, tout n'est pas possible, parce que tu sais bien, il y a toujours des routes de son. On ne peut pas les faire balader arbitrairement comme ça. » Mais j'aimerais vous jouer quand même un court extrait de cette œuvre, parce que je crois qu'en fait, il avait appris de Varèse, parce que du coup, cette œuvre, Hibiki Hanama, réverbération, fleur, ma en japonais est un terme extrêmement chargé qui est souvent traduit comme intervalle, mais c'est une sorte de pause, c'est une sorte de quelque chose d'indicible. Mais dans cette œuvre, musicalement, avec des moyens électroacoustiques comme pour le pavillon Philips, il a fait comme Varèse finalement. On peut l'écouter en stéréo et on a vraiment l'impression d'être totalement dans une immersion totale du son dans un espace. pavillon Philips, oui, ce n'était aussi qu'un début sur le plan d'architecture pour Zenakis, qui a poursuivi une carrière d'architecte. Comme vous voyez, quand même, cette forme revient comme une véritable signature de sa part. Mais, tout compte fait, Zenakis était tout d'abord et en premier lieu un musicien pour qui il faut réapprendre à toucher le son des doigts. C'est ça le cœur de la musique, son essence. Et comme cette immersion a vraiment primé dans son œuvre aussi, il voulait que les auditeurs soient touchés par le son. Il avait l'habitude d'écouter la musique à très fort volume, parce qu'il disait que ce n'est pas par les oreilles que le son doit rentrer, mais par la peau. Je vous remercie.